François Hellebronn, bonsoir.
Bonsoir Pierre.
François Hellebronn, vous êtes professeur associé à Sciences Po et nous allons ce soir avec vous revenir sur trois moments de l'actualité de ces derniers jours en France. Le 23 novembre dernier, Dominique de Villepin réagissait à l'éviction de la comédienne Mélissa Barbera du casting d'un film américain, Screen 7, dans l'émission Quotidien sur TMC. Sur le plateau, l'ancien Premier ministre a associé les Juifs à la domination financière sur les médias et sur le monde de la culture, des propos qui ont fait polémique. Alors, une précision, l'actrice en question, Mélissa Barbera avait publié un message accusant Israël de génocide et de nettoyage ethnique et immédiatement Dominique de Villepin, lui, a associé les Juifs à la domination financière sur les médias et sur le monde de la culture. Alors j'ai envie de vous poser cette question, est-ce que Dominique de Villepin serait devenu antisémite ?
Je dois vous avouer ma très grande surprise, parce que j'ai connu Dominique de Villepin il y a 20 ans, il était un jeune et fringant ministre des Affaires étrangères et qu'il a fait une chose qui n'avait pas été faite sous Chirac, il a relancé la relation bilatérale franco-israélienne, ce qu'on oublie un peu trop souvent. Il a nommé d'abord un très bon ambassadeur, ce qui n'était pas le cas avant, de France en Israël, qui était Gérard Haro, qui s'est fait connaître à ce moment-là. C'est lui qui a décidé l'acquisition de l'Institut français du boulevard Rothschild, l'institut culturel, et il a vraiment relancé les relations bilatérales, parce qu'il avait une analyse assez bonne, il disait que la France était tellement déconsidérée en Israël, que la France n'était pas audible pour être un médiateur, un intermédiaire avec les Arabes, et donc il fallait relancer les relations bilatérales, et notamment sur le plan universitaire, j'en avais été témoin, il a été très actif. Il a aussi été très actif dans la commémoration de la Shoah, parce que quand il était Premier ministre, il avait prononcé un très beau discours au Veldiv. Il était venu inaugurer au mémorial de la Shoah le mur des justes avec un autre ancien Premier ministre qui s'est aussi illustré dans l'actualité, Ehud Olmert. Et donc, il y avait un engagement certain, en tous les cas, pour rapprocher avec Israël, tout en tenant un discours pro-arabe, mais au moins, il y avait ces actions-là. Mais effectivement, depuis quelques années, il y a une vraie dérive chez lui, qui s'est déjà exprimée à nombreuses reprises. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on ne l'entend plus beaucoup dans l'actualité, on n'entend plus beaucoup parler, sauf quand il y a un conflit entre les Israéliens et les Palestiniens. Déjà, j'avais été très surpris et très choqué par les propos très violents qu'il avait tenus à l'été 2014, contre déjà un conflit à Gaza entre Israël et le Hamas, et il était un peu venu au secours du Hamas déjà à l'époque, et ça s'est renouvelé à nouveau. On l'a entendu un peu à nouveau l'année dernière, il y a deux ans, quand la Russie a attaqué l'Ukraine, où là il est un peu devenu à la défense de la Russie au début, puis après il a changé sa fusil d'épaule. Et puis là, depuis quelques semaines, il est véhément sur plein de plateaux télé pour accuser les Israéliens de tout, dénoncer soi-disant une prison à ciel ouvert de Gaza, il dit que les réponses sont ni ciblées ni proportionnées, il dit qu'il va au combat contre la droite israélienne, et à juste titre, dans une des émissions sur CNews, Gilles William Golnadel lui a demandé si ses prises de position régulières, en tous les cas, en faveur des Gazaouis et surtout de la dictature qui les contrôle, le Hamas, n'étaient pas liées au fait qu'il était très proche du Qatar. Alors il s'en est défendu sur le plateau en disant que c'était pas vrai, que c'était des mensonges, c'était des rumeurs, c'était infamant. Mais en regardant de plus près, il y avait un article du Monde déjà en 2013, donc il y a 10 ans, qui expliquait qu'il est administrateur du Centre de Doha pour la liberté d'information. Il a hérité d'un siège au sein du conseil d'administration de l'autorité des musées du Qatar gérée par Mayassa, la fille d'émir. Il est un des rares occidentaux qui appartient à l'organigramme et la fondation est dotée d'un budget pharaonique qui ambitionne d'ouvrir 14 musées sur la presqu'île. Et les collectionneurs de statuettes, ils distribuent ses conseils avisés. On le dit, il dément, conseil des affaires privées de l'épouse de l'émir. Et Dominique de Villepin est chez lui à Doha, comme nul autre français, affirme un ancien ambassadeur français. Et puis il y a un livre qui est sorti en 2016 qui s'appelle « Nos très chers émirs » qui a été publié par, écrit par deux de vos confrères, Georges Malbruno du Figaro et Christian Chéneau du Figaro, où il est écrit que Dominique de Villepin est également évoqué comme un vieil ami de la famille régnante qui fait beaucoup d'affaires au Qatar. Il exige d'être en première classe, sinon il boude les invitations à Doha, écrivent les journalistes, citant un diplomate de l'ambassade du Qatar. Et donc, effectivement, on peut s'interroger sur ces prises de position assez épisodiques, mais qui ne concernent toujours qu'une hostilité farouche à l'égard d'Israël, Et là, effectivement, moi j'ai été très 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 choqué des propos que vous avez rapportés, qui sont une nouvelle escalade dans la haine d'Israël. Et effectivement, c'est plus elliptique ce que vous avez cité, ce qu'il a dit. J'ai la citation sous les yeux. Il a dit: la domination financière sur les médias et sur le monde de l'art, de la musique, pèse lourd parce qu'ils ne peuvent pas dire ce qu'ils pensent, tout simplement parce que les contrats s'arrêtent. Et malheureusement, nous le voyons aussi en France. Et évidemment, dans les vieux schémas préjugés classiques hostiles aux Juifs, quand on parle de domination financière des médias et sur le monde de l'art, il n'a pas cité le mot juif, mais quand on dit la domination financière sur les médias et sur le monde de l'art, ça renvoie évidemment à un imaginaire complotiste, antisémite, assez fort, et c'est une dérive de plus de celui qui a incarné à un moment donné dans la politique française une certaine élégance, une certaine hauteur de vue, et là il tombe dans des affres assez insupportables.
Alors, autre personnage que l'on va évoquer ensemble, c'est Jean-Luc Mélenchon, qui poursuit inéluctablement sa stratégie du chaos. Dimanche dernier, il a provoqué un nouveau scandale en qualifiant la journaliste Ruth El-Krieff de manipulatrice. Il a fait cette déclaration sur X, anciennement Twitter, et ce, dans la foulée d'un entretien qui était assez tendu entre la journaliste et le numéro 2 de LFI, Manuel Bompard. Si on injurie pas les musulmans, cette fanatique, il parle de Ruth El-Krieff, s'indigne, a poursuivi Jean-Luc Mélenchon. Moi, j'ai envie de vous poser cette question. Que cherche exactement Jean-Luc Mélenchon ?
En fait, j'étais un des tout premiers, à dénoncer les dérives antisémites de Mélenchon. Le tout premier, il faut lui rendre hommage, un de vos confrères, Frédéric Aziza, de Radio J, qui, à l'été 2014, s'était à juste titre indigné et offusqué des déclarations qu'avait faites Mélenchon suite aux manifestations antisémites qui avaient pratiquement viré au pogrom de l'été 2014 à Paris, où vous en rappelez, les synagogues de la Tournelle, de la Roquette, et aussi à Sarcelles, avaient été attaqués par une bande de hordes de jeunes très excités et très chauffés de ce qui se passait à Gaza. C'était des cris mort à Israël, mort aux Juifs, solidarité avec Gaza, et puis il y a les drapeaux de Daesh et les drapeaux du Hamas. Et Mélenchon, à l'époque, avait écrit qu'il voulait rendre hommage, à cette jeunesse digne qui a su se mobiliser en défense des malheureuses victimes de guerre de Gaza. Et je lis ce qu'il disait à l'époque, c'était à l'été 2014, ils ont su se tenir dignes et incarner mieux que personne les valeurs fondatrices de la République, ces valeurs qui font que nous sommes toujours du côté du faible et de l'humilié. Voilà comment il salue ces manifestants. Et en avril 2017, j'avais publié une tribune dans La Règle du Jeu, la revue de Bernard-Henri Lévy, où je publie assez souvent. Et cette tribune s'appelait « Mélenchon, les Juifs et le peuple supérieur ». Et je dénonçais justement cette complaisance de Jean-Luc Mélenchon pour les manifestations antisémites de l'été 2014, plus un certain nombre de propos qu'il avait tenus, où justement, en parlant du peuple juif, il parlait du peuple supérieur, et donc c'était évidemment un poncif antisémite assez classique. Et puis, à l'époque, il attaquait le CRIF de manière véhémente. Et à l'époque, Gérard Miller, qui est un de ses amis, psychanalyste d'origine juive, lacanien, l'avait défendu et m'avait attaqué dans Libération, pour répondre à mon article dans La Règle du Jeu. Il avait publié « Mélenchon et l'antisémitisme, une manipulation de fin de campagne ». Le psychanalyste Gérard Miller estime que les accusations d'antisémitisme portées à l'encontre de Jean-Luc Mélenchon relèvent de la manipulation de fin de campagne. Et puis, voilà ce qu'il écrivait sur moi. « Circule depuis quelques jours sur les réseaux sociaux un texte signé par François Elbron, professeur associé à Sciences Po, où sont dénoncées les complaisances de Jean-Luc Mélenchon pour les manifestations antisémites de l'été 2014. Ce texte est une pure infamie, le genre de saloperie que certains aiment tout particulièrement diffuser dans les derniers moments d'une campagne électorale. » Effectivement, on était à quelques jours du premier tour de la présidentielle de 2017. J'avais obtenu, puisque c'était diffamatoire sur mon article, une réponse dans Libération, qui était une réponse à Gérard Miller, et où je rappelais en fait les différents faits, et c'était juste deux jours avant la campagne. Depuis 2017, vous le savez, nos auditeurs le savent aussi, Jean-Luc Mélenchon s'est enfoncé dans les caricatures, les propos qui tombent vraiment là dans l'antisémitisme le plus explicite. Il a accusé le peuple juif de déicide, il n'a pas lu Vatican II, il est tombé dans une violence extrême depuis qu'il y a le conflit entre Israël et Hamas suite au massacre terrible du 7 octobre. Il est un alignement total sur les positions les plus radicales du Hamas et du FPLP et de ses amis, et il tombe de Karib en Silla, et samedi dernier, à la manifestation, j'ai vu qu'il appelait son soutien total à la résistance palestinienne. C'est qui la résistance palestinienne? C'est les égorgeurs, les violeurs, les massacreurs du Hamas. Et pour conclure, ce qui est intéressant, c'est que Gérard Miller, toujours lui, le 4 décembre 2023, donc il y a deux jours, sur France Info, a déclaré « C'est évident que le bruit et la fureur, qui ont été un moment tout à fait fécond dans l'histoire du mélenchonisme, aujourd'hui sont assourdissants. On a envie, de temps en temps, qu'on pose un peu le mégaphone, qu'on pose un peu le haut-parleur, quand on s'appelle Mélenchon, et qu'on parle d'une autre façon, non seulement à Routhier-Krieff, mais à tout un chacun. » Donc Gérard Miller, je suis content, est en train de voir un peu la lumière. Il se rend compte que la folie et la dérive d'un antisionisme virulent de son ami Mélenchon a basculé dans un antisémitisme dangereux, et qu'effectivement, le fait qu'il ait ciblé de manière aussi inique Routhier-Krieff en la proposant comme cible à tous les fanatiques islamistes radicaux qu'il peut y avoir en France, est un danger total. C'est une mise en danger d'autrui. D'ailleurs, je pense que ça pourrait être poursuivi. Et toutes ces déclarations sur Gaza, le Hamas et le FPLP, c'est une apologie du terrorisme qui est aussi tombé sous le coup de la loi. Donc, de dérive en dérive, Jean-Luc Mélenchon est perdu définitivement. Mais ça, c'est pas une surprise, ni pour vous, ni pour moi.
Oui, Gérard Larcher, le président du Sénat, ce matin, chez nos confrères de RTL, lui a demandé, dans le langage truculent que peut avoir souvent Gérard Larcher, il a demandé à Jean-Luc Mélenchon de fermer sa gueule. On va parler à présent de Sciences Po. Vous êtes professeur associé à Sciences Po. On a vu qu'à Sciences Po, les étudiants, que ce soit les étudiants de l'UEGF ou les étudiants qui soutiennent la cause palestinienne, s'affrontent régulièrement à Paris. Et puis, il y a cette initiative étudiante, c'est Sciences Po Menton, qui est nommé Sciences Palestine sur le campus de Menton et qui a défendu des résistants de Gaza sur les réseaux sociaux. La députée de la circonscription, qui est du Rassemblement National, a écrit à la direction qui envisage des sanctions. Sciences Palestine à Sciences Po Menton prône aussi de boycotter Israël.
Oui, alors il y a plusieurs sujets. Ben, comme toutes les universités dans le monde occidental, de manière moins véhémente d'ailleurs que ce qui peut se passer sur les campus américains ou anglais, les campus français, chaque fois que ça s'enflamme au Proche-Orient, moi je me rappelle quand j'étais étudiant à Sciences Po, c'était en 82, il y avait la guerre au Liban, et déjà à Sciences Po, comme ailleurs, on traitait Israël d'état nazi, d'état génocidaire, etc., etc. Donc effectivement, il y a toujours un petit groupuscule gauchiste qui s'agite, c'est toujours les mêmes, bon, les générations passent, mais les idées débiles restent. Et à Sciences Po, on a ça, on a effectivement une organisation gauchiste qui s'appelle Solidaire, pas très éloignée de la France Insoumise d'ailleurs, qui est très véhémente, qui accuse les Iraniens de génocide, qui accuse Israël de tous les maux et qui n'a aucune compassion pour les victimes du massacre du 7 octobre. Donc ça, c'est la réalité étudiante, mais qui est, comme toujours, dans ses excès marginales. À Sciences Po, il faut rappeler qu'il y a 15 000 étudiants. Donc s'il y a 100, 200 étudiants qui ont ces idées-là et qui les manifestent, c'est assez marginal. Après, on parlera de Sciences Po Menton, mais restons sur Sciences Po Paris. Et à Sciences Po Paris, en fait, la direction de Sciences Po a pris un certain nombre de mesures très fermes, dans le sens à la fois de l'encadrement, mais aussi de l'éducation. La première chose, c'est que, je crois que je l'avais raconté ce micro, hélas, un étudiant de Sciences Po israélien, Omri Ram, a été tué pendant le festival de musique Nova dans le Negev, à la frontière de Gaza. Il est un des premiers qui a été tué. Il était étudiant en échange de Sciences Po l'année dernière. Et le directeur du Sciences Po, le 12 octobre, 5 jours après les massacres, a rendu un hommage public dans l'enceinte de Sciences Po, où il y avait à peu près 300 personnes, donc beaucoup d'étudiants et beaucoup d'enseignants et beaucoup de salariés de Sciences Po. Et nous avons rendu hommage à cet étudiant assassiné par le Hamas. C'est en fait le deuxième étudiant de Sciences Po assassiné par le Hamas. Le premier avait été en 2002, c'était David Gris qui avait été tué à la cafétéria de l'université hébraïque de Jérusalem. Donc, ensuite, ce qui s'est passé à Menton, effectivement, à Menton, c'est un campus tourné vers le Proche-Orient. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont originaires du Proche-Orient, qui viennent de différents pays arabes du Proche-Orient. Et c'est un campus où il y a effectivement un certain nombre d'étudiants qui, dès le début des hostilités et des massacres, se sont manifestés publiquement dans l'enceinte de Sciences Po et aussi sur les réseaux sociaux de manière très violente, comme vous l'avez rappelé. Mais là, en France, contrairement aux États-Unis et en Angleterre, on a un cadre légal, on a un cadre juridique. L'apologie du terrorisme, c'est illégal et l'antisémitisme, c'est illégal. Et donc, le directeur de Sciences Po, la direction de Sciences Po, aussi bien Sciences Po National que Sciences Po Menton, a convoqué un certain nombre d'étudiants, d'abord pour un rappel à l'ordre, en disant qu'ils encouraient d'être sanctionnés, évincés de Sciences Po, et aussi être soumis à des poursuites pénales. Et deuxièmement, un certain nombre de commissions disciplinaires ont été engagées contre certains étudiants, et ce qui a quand même ramené un peu le calme. Mais pas totalement, puisque suite à ces convocations devant les commissions disciplinaires, des étudiants de Sciences Po Menton, justement du collectif Sciences Palestine, ont essayé de bloquer l'entrée de Sciences Po, et le directeur de Sciences Po a envoyé la police pour débloquer l'entrée. À Paris, moi j'ai reçu plein de WhatsApp, parce que comme plein de gens savent que je suis prof de Sciences Po. Qu'est-ce qui se passe à Sciences Po? C'est quoi ces grandes manifestations pro-palestiniennes devant Sciences Po? Alors, c'est des manifestations pro-palestiniennes devant Sciences Po. Il y a effectivement un collectif d'étudiants de Sciences Po, mais pas que d'étudiants de Sciences Po, de gauchistes venus un peu de partout, qui ont émis un grand drapeau palestinien rue Saint-Guillaume devant Sciences Po, sur la voie publique, et qui ont fait une manifestation assez courte, parce que la direction de Sciences Po a appelé la police pour évacuer cela, et c'est la police qui l'a fait, mais c'était sur la voie publique, et la voie publique, c'est pas la Sciences Po qui l'a régie, heureusement, non, c'est la préfecture de police de Paris, et Sciences Po, justement, vu son établissement, était bloqué par une manifestation pro-palestinienne. Par ailleurs, l'UEJF a un certain nombre d'actions à l'intérieur de Sciences Po qui sont très efficaces, et je salue le courage des étudiants de l'UEJF Sciences Po qui font un travail formidable. Et enfin, la direction de Sciences Po a voulu aussi, au-delà des menaces et des sanctions qui sont prises, élever un peu le débat, et donc il y a eu plusieurs conférences sur l'histoire du conflit israélo-arabe, pour que les gens apprennent, quoi, tous nos étudiants apprennent, et la semaine dernière, il y a eu une conférence sur l'histoire de l'antisémitisme, avec un panel très qualifié, et notamment il y avait Dominique Régnier, le grand spécialiste de Fondapol de la question, il y avait Yanis Roder, responsable des formations mémoriales de la Shoah, qui ont parlé de l'histoire de l'antisémitisme et qui ont noté de manière très précise les liens entre l'antisionisme et l'antisémitisme. Donc à Sciences Po, on fait notre travail de veille et d'essayer de calmer les esprits, et aussi notre travail d'éducation. Voilà. Et ce n'est pas évidemment toujours ce qui est relaté par la presse, ou surtout les réseaux sociaux, où les images priment sur les mots, sur les idées et sur l'intelligence.
François Heilbronn, professeur associé à Sciences Po, merci d'avoir été avec nous sur Radio Shalom. Bonsoir.
Bonsoir Pierre.